au Golf, entre parenthèses, podcast, le podcast où on jase de golf entre filles. En collaboration avec l'équipe More Birdie, dans leur studio Adidas TaylorMade. Allez les suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Sinon, vous pouvez aussi écouter leur podcast sur les différentes plateformes audio. Bon podcast. Donc, c'est Ellie, en ce moment, qui va interviewer Alexandra pour apprendre un petit peu plus à la connaître. Moi, je la connais déjà. J'aimerais la connaître un petit peu plus. J'ai préparé des questions qu'elle ne connaît pas. Et ben ensemble, là, on va apprendre un petit peu plus à la connaître. On va parler de son golf junior, on va parler de sa transition vers l'enseignement, un peu plus sa personnalité dans l'enseignement, puis des petites questions rapides à la fin.
Salut, Lee.
Salut, Alex. C'est vrai, je t'ai pas dit salut.
Oui, je suis bien concentrée dans tes questions.
Exact.
Que je connais pas, j'ai hâte, je suis vraiment hâte.
T'as hâte? OK, j'ai hâte. On part. OK. Bon, tu étais sportive jeune. OK, je le sais, tu as joué à soccer, ringuette. Et là, mais tu as commencé le golf plus tard, parce que je le sais. Moi, j'étais là, j'ai commencé un petit peu plus jeune que toi. Tu as commencé à quel âge?
Bien, le golf en tant que tel, c'est rentré quand même tôt dans ma vie parce que mon père est un passionné de golf. Puis, j'ai eu mes premiers bâtons, j'avais probablement 5 ans.
Ah, OK, j'aurais pas pensé.
Oui, mais fait que j'ai commencé à aller frapper des balles avec mon père. Mais ma première partie de golf, j'avais 8 ans, 9 ans avec mon père. J'ai commencé à faire la compétition jeune parce que je faisais de la compétition où j'étais à un niveau plus élevé dans beaucoup d'autres sports, tu sais.
Okay.
Mais j'ai commencé le golf en tant que tel, peut-être à 8-9 ans. Mais oui, c'est vrai que la compétition, j'ai commencé beaucoup plus tard que toi. Là.
C'est ça, parce que mon idée, moi, mon repère, c'est la compétition. Donc, si tu ne commences pas la compétition tôt, tu as commencé le golf tard, tu comprends? Mais, OK, tu jouais à quel club?
J'ai commencé, dans le fond, pas mal comme golfeuse publique, jusqu'à temps que j'arrive au secondaire, puis je suis vraiment dans un programme de golf parascolaire. Mais j'ai fait mon golf junior au Triangle d'Or. Triangle d'Or à Saint-Rémy, là, qui est plus qu'en banlieue de Montréal, mais qui est un super beau club de golf là, pour commencer. Puis c'est là où je suis installée aussi avec l'école secondaire, là, le Collège Charlemagne à Sainte-Catherine, sous la supervision de Sylvain Laplante, que je salue d'ailleurs.
OK. Good. Triangle d'Or, c'est vrai, je me rappelle. Quand on était en tournoi junior, ils nous annoncent toujours, sur le départ, au départ.
Là, tout le monde qui était sur la Rive-Sud, c'était Vallée du Richelieu, Pine Grove. Puis là, le monde était comme Triangle d'Or.
Triangle d'Or. C'est mieux que le Triangle d'Argent. Bref.
Ouais.
Donc là, j'avais comme question qui t'a initié, mais c'est ton père qui t'a initié.
Ouais, ouais.
Qui t'a amené, là. Est-ce qu'il était membre aussi au Triangle d'Or, ton père?
Non, mon père, je pense que dans sa jeune vie d'adulte, il était membre dans le coin de Noyant, là, qui est vraiment proche des lignes avec les États-Unis. Là, fait que d'où j'habite, là, les douanes et les États-Unis, c'est 30 minutes. Là. On peut traverser les douanes à Saint-Bernard-de-la-Colle puis avoir accès, là, que ce soit à Plattsburgh, Ross's Point, des différents terrains aux États-Unis. Puis on était dans une période où c'était plus facile de moi, en tant que jeune enfant de 9 ou 10 ans, même 11 ans, d'aller jouer aux États-Unis. Ça coûtait moins cher, de un.
OK.
Puis c'était beaucoup plus accessible. C'était une mentalité qui n'était pas encore arrivée au Québec, où les jeunes étaient invités sur le terrain de golf autant qu'actuellement. C'est pour ça que mon père m'a amené là, mais c'est parce que lui était membre plus jeune aussi. Ces terrains-là, parce que ça coûtait moins cher jouer aux États-Unis à ce moment-là. Puis, côté proximité, ben, c'était le même temps.
Puis, je pense pas qu'en 2020 et 2021, ça aurait été possible de faire ça.
Non, je pense pas que ça aurait été. Mais, tu sais, on parle probablement plus là, dans les années 80 là, que mon père était membre là, dans ces clubs-là, là, qui étaient en bordure des lignes là, canado-américaines. Mais c'est mon père qui m'a initié. Puis par la suite, lui, il est resté golfeur public. Évidemment, il venait souvent jouer avec moi au Triangle d'Or parce que...
Il allait te porter.
Il allait me porter, la première chose. Puis quand j'avais pas de match, ben, on s'en faisait un à ce moment-là.
Cool.
Et là, tu as commencé la compétition, je pense, 14 ans à peu près.
14-15 ans, oui.
Que tu pourrais me raconter ton plus beau souvenir, que ce soit des résultats ou que ce soit juste...
Ah, des plus... De, mettons, du début, début, début?
Ouais, du début.
Du t'sais, début, là, ben,
junior.
Tu sais, mon premier contact avec la compétition, ça, c'était les qualifications pour les Jeux du Québec. Parce que je faisais des tournois avec le Collège Charlemagne. On était sur le ça s'appelait le sport étudiant ou le sport étudiant Richelieu dans ce temps-là, là, mais ouais. Avant que ce soit le RSEQ. Mais j'en faisais déjà avec le Collège, des petits tournois ici et là. Mais vraiment, compétition au niveau peut-être plus élevé ou plus reconnu. Mm-hmm. C'était vraiment les qualifications pour les Jeux du Québec où j'ai participé. En 2007.
Mais c'est 2007, Sept-Îles?
Sept-Îles?
Ça veut dire que j'étais là?
Ça veut dire que t'étais là, on se connaissait pas, par exemple?
On se connaissait pas, non.
Tu vas avoir 8 ans, là.
J'avais 12 ans. J'avais 12 ans?
Oui, c'est ça, moi j'avais 15 ans. C'est comme la dernière année, je pense que t'as le droit jusqu'à 16 ans.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est ma dernière année. Mais les Jeux du Québec sont devenus, puis sont encore dans mes meilleurs moments, de partir à Sept-Îles.
Sept-Îles.
Moi, dans ma tête, Sept-Îles, là, c'était... L'autre bout du monde. J'avais été souvent en Floride, mais moi, Sept-Îles, je connaissais pas ça, l'Est du Québec. T'sais. Fait que partir en autobus, faire, je sais pas, 12-14 heures de...
C'était pas si long que ça. C'était si long?
Yeah, tu partais de Lévis, moi, je partais de Longueuil.
C'est vrai, tu partais un petit peu plus loin que moi.
Je partais de Longueuil, mais nous autres, non, ça nous a pris... Un bon 14 heures. Là, si mon souvenir est bon, on était parti un soir, on était arrivé le lendemain, on avait déjeuné, puis on n'était même pas rendu encore. Ouais.
Mais est-ce que...
Ça, c'est des bons moments.
Puis là, c'est le fun, parce que tu pars pas chez le golf, hein, tu pars avec la délégation
puis ça, de c'est ta ça région. Qui est le fun, parce que là, parce que j'étais sportive, à l'école, je me tenais aussi avec... On était souvent des athlètes ensemble. Mm-hmm. Bien, il y avait des athlètes de d'autres sports... de mes ouais. amis ou de mes connaissances d'école qui étaient avec moi, qui jouaient au baseball. Il y en a qui étaient là pour le soccer. Mm-hmm.
Des sports d'été.
Fait que c'était natation un petit peu moins, mais ça faisait que je suivais aussi d'autres mondes de d'autres sports. Puis... On est parti avec, dans le fond, au Jeux du Québec, c'était deux filles, quatre gars, un entraîneur. Mm-hmm. Mon entraîneur, à ce moment-là, c'est Élise Paiement, qui est professionnelle de golf, enseignante. Je pense qu'elle était pro, mais je ne suis pas sûre si elle était pro à ce moment-là, mais maintenant, elle est professionnelle enseignante à la vallée du Richelieu, si je ne me trompe pas.
Je ne peux pas dire.
Ouais, mais, je sais ouais, pas. Je suis pas mal sûre que c'est qu'Élise est rendue à la vallée du Richelieu. Puis, c'est ma première coach. La première coach de golf que j'ai eue, là, où j'avais un encadrement, c'était une fille. Ça peut-tu pas être beau? C'était le fun. Puis, Élise, on avait eu pas mal de fun avec elle. Puis, j'avais gagné des médailles aussi. Mais au-delà des médailles, on avait eu tellement des belles expériences. Puis, c'est là que je me suis mis à connaître pour la première fois... des filles qui, après, sur les circuits juniors, qu'on passait nos étés ensemble.
Ouais.
Fait que c'est les Jeux du Québec, c'est tellement un beau souvenir. Puis, c'est malheureux que les Jeux du Québec, en ce moment, n'aient pas eu lieu parce que ben, le retour de l'ascenseur, j'étais supposée être l'entraîneur de l'équipe de la Rive-Sud. L'année dernière, pour l'été dernier. Fait que de faire un tour complet, là, je ne sais pas si l'expression française a autant de signification que...
Ben, boucler la boucle, là, dans le fond.
Boucler la boucle. Ouais. De redonner aux gens qui m'ont encadré. Mais c'est sûr que jeune, mon plus beau souvenir, c'est sûr que c'est les Jeux du Québec.
Moi, tu vois, mon souvenir des Jeux du Québec, je pourrais en parler au pire dans mon entrevue, là, mais c'était différent. J'avais 12 ans, je commençais le golf. Il y avait une journée, il n'y avait plus, j'avais pas d'équipement.
Stable
Ford, c'était atroce, mon expérience.
Mais le terrain était beau. Je sais pas si tu te rappelles-tu un peu. Sainte-Marguerite. Le terrain, c'est Sainte-Marguerite. Si vous êtes dans le coin de l'Est du Québec, ben, c'est ça, si vous êtes loin. Si vous êtes loin. Mais si vous êtes dans ce coin-là, là, amenez vos bâtons de golf. appelez au golf Sainte-Marguerite. Allez le jouer. Il y a un par 5. Je pourrais pas vous dire c'est quel trou, là. Mais c'est un trou qui me marque, qui continue de me marquer. C'est un par 5 ou un genre de plateau sur le dessus avec une descente, là, une dénivellation vers le bas. Mais quand on arrive sur le dessus du plateau, c'est le golfe du Saint-Laurent qui est devant nous. C'est ouvert, il n'y a rien d'autre que de l'eau à perte de vue, mais c'est le golfe du Saint-Laurent, puis c'est juste magnifique.
Tu vois, c'est fou parce que quand t'as 12 ans, là,
ouais,
tu remarques beaucoup moins que quand t'en as 16 ou quand t'en as 25 ou quand t'en as 30, ouais, etc. Là. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pas remarqué la même affaire que toi. J'étais à la même place que toi, mais je sais même pas qui a gagné. Je sais rien, tu vois. Fait que les souvenirs, hein, sont tellement teintés de qui on est. Donc, en parlant justement de toi en compétition, t'étais comment, toi, comme joueuse junior, Alexandra Pelletier?
Oh mon Dieu! Émotive, beaucoup trop émotive. Émotive. Beaucoup trop émotive. Déterminée, c'est sûr. J'ai toujours été passionnée par la game, puis ça, à un très jeune âge, là. J'ai toujours aimé comprendre le sport, comprendre la dynamique, la technique et tout et tout. Je pense que j'étais la personne qui parlait. Je parlais sur le terrain, ça, c'est sûr.
Tu parlais sur le terrain.
Mais j'étais assez émotive par rapport à ma game. Je pouvais me fâcher vite, pas toujours de la bonne manière, mais ce qui faisait que je vivais mes highs très high, mais je vivais mes lows très low aussi. Okay.
C'est quoi, mettons, la différence avec toi à l'université? Parce que clairement que moi, ce que j'ai connu, c'est que t'as toujours progressé. Fait que tu étais bonne, 15 bonnes, 16 bonnes, 17, mais t'as comme jamais arrêté t'as continué ta progression.
Ouais, mais c'est drôle que tu dises ça parce que dans ma vie, je suis comme ça. J'aime toujours avoir un prochain projet ou une prochaine étape. J'aime ça monter les marches une à la fois, bien les monter. Mais j'ai l'impression que jeune, cette progression-là s'est faite par rapport à la game plus technique ou le côté plus athlétique de la game, mettons. Faire un swing, créer de la puissance. J'ai toujours eu quand même aussi une forme physique. Là, je fais quand même presque 5 pieds 8 avec...
Oui, t'as un avantage.
J'ai quand même un physique qui me permettait déjà de frapper la balle loin à la base, puis... j'ai toujours eu une base qui me permettait d'aller chercher de la puissance, mais j'ai évolué dans mon golf amateur, donc quand j'ai passé mes 18 ans, pas mal plus sur l'aspect mental de la chose. L'université m'a permis d'aller chercher des connaissances par rapport à la technique de golf, mais j'ai appris à me connaître moi en tant que personne, puis je pense que c'est là que je suis devenue une meilleure golfeuse, parce que j'ai commencé à comprendre qui j'étais, ce qui expliquait des réactions sur le terrain. J'ai commencé à comprendre que ça allait trop intense.
Trop deep.
J'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je joue au golf pour moi.
Ouais.
Puis j'ai commencé à comprendre que le score qui est sa carte, à part le moment que tu signes la carte, là, y a-tu quelqu'un qui se rappelle de ce que tu as joué?
Personne s'en rappelle.
Dans 6 mois, même pas, dans 2 semaines, quand tu vas revoir le monde sur le prochain tournoi, ils se rappellent même pas de comment t'as joué. Mais si t'as une mauvaise attitude, par exemple, ça, ils vont s'en rappeler longtemps. Ouais. Puis c'est, j'ai eu un moment de cassure comme ça où j'ai fait, mais non, tu peux pas. Tu peux pas avoir ce genre de réputation-là. Tu peux pas. Je sais pas si c'était ma réputation, mais pour moi-même, c'était quand même ce que ma perception de moi-même qui s'était rendue que ça me déplaisait. T'sais, je jouais au soccer ou je jouais à ringuette, je me fâchais. C'était une chose, mais là, au golf, par rapport à moi-même, j'ai juste m'en blâmé.
Good. T'étais-tu plus coachable jeune ou à l'université?
Je pense que j'ai jamais été coachable.
C'est correct, on peut arrêter là-dessus. T'es pas coachable, c'est correct.
Je suis pas coachable. Va demander à mes anciens coachs. Non, mais comme je te dis, je suis quelqu'un qui l'est encore, là, passionné par le jeu. Fait que j'aimais comprendre. J'aimais quand on m'expliquait comment faire les choses. La seule chose, c'est que par ce désir de connaissance-là, puis par ce désir de comprendre, je rentrais pas directement dans l'exécution. Il fallait que je comprenne comme... Là, je comprenne le concept avant de l'appliquer. Puis il y a beaucoup de monde qui vont dire « Ben oui, mais moi aussi, c'est comme ça. » C'était plus compliqué que ça. Le pattern, c'était pas juste « OK, bon, je vais faire ça. » C'était vraiment « Mais pourquoi? Quel effet que ça a? » Puis tu sais, c'était devenu gros. Là.
C'est ça. Là. Comme l'enfant de 4 ans « Mais pourquoi? Mais pourquoi? »
Oui, exactement. «
Pourquoi? Mais pourquoi? » Mais il n'y avait pas, il y avait jamais de fin de « Mais pourquoi? »
Exact.
C'est vrai que dans un processus de changement, de swing, il y a toujours... C'est difficile quand même. Fait que des fois, c'est pas mauvais comme élève de demander pourquoi. Puis des fois, ça peut allumer la cloche du coach, dire « Ouais, c'est vrai, pourquoi je ferais ça, tu sais? » C'est vrai que visuellement, ça serait plus beau si elle faisait ça, mais est-ce que vraiment le temps, l'effort qu'elle va mettre va être payant?
Oui, puis on... Je sais pas toi, mais moi, je suis dans une période où on utilisait beaucoup le vidéo, mais les Trackman n'existaient pas, là. Donc les Lunch Monitor n'existaient pas encore. À l'université, ils existaient. Mais dans mes premières années junior, ça n'existait pas. Mais on était comme dans l'entre-deux. On n'avait pas les réponses.
C'est ça.
Ou du moins, les entraîneurs, à ce moment-là, ne pouvaient pas me donner les réponses que je cherchais, que j'ai eues par la suite à l'université. Mais à l'université, je pense que la difficulté en tant que... ou du moins le pourquoi j'étais pas coachable, c'est parce que j'ai fini par des contextes qui arrivent à pas être laissé à moi-même, mais à peut-être être moins encadré que certains jeunes le sont maintenant, ce qui fait que j'ai cherché mes réponses moi-même. Et quand on se met à chercher les réponses moi-même, nous-mêmes, puis à faire les choses nous-mêmes, ben des fois, c'est plus difficile de laisser les autres te coacher puis t'influencer. Puis j'ai une bonne tête dure, fait que par moment je sais que ça l'a pu peut-être créer des frictions avec mes entraîneurs, pas parce que je remettais en doute leurs compétences, plus que parce que j'aimais être dans mes affaires puis de faire mes choses.
Okay. Fait que là, ça c'est la section plus junior. Là maintenant, on va vers la section enseignement, parce que tu étudies en sciences politiques, puis j'étais avec toi à la fin de ton bac.
Mm-hmm.
Puis moi, je savais pas pendant tout que tu allais être pro de golf. Puis quand j'y repense, c'est quand que toi t'as dit « je deviens pro de golf » ou « je m'en vais vers le golf » ? As-tu un
moment j'ai toujours eu l'aspiration de jouer. En fait, je voulais jouer. Je voulais être sur la LPG. C'est ça la vérité. Parce que quand on est jeune puis on fait un sport, le seul moyen d'en vivre, c'est de le jouer. Il n'y a pas personne qui, à 5 ans, va dire « Moi, je vais coacher le Canadien de Montréal un jour. » Il va dire « Non, je veux jouer pour le Canadien. » Puis, à un moment donné, il se rend compte que ça ne se passera pas. Puis là, ben c'est là que les autres avenues arrivent. Puis moi, ce moment-là est arrivé à l'université. À ma deuxième année, j'ai passé un camp d'entraînement de 10 semaines en Floride avec le Rouge et Or. Puis, je me suis rendu compte à ce moment-là que oui, j'avais les habiletés peut-être pour me rendre ou du moins avoir une chance de me rendre... à ce rêve-là, mais que j'étais peut-être pas prête à faire tous les sacrifices pour me rendre jusque-là. Que j'avais pas les moyens non plus nécessaires pour me rendre jusque-là. Oh, c'est énormément d'argent. C'est
des ressources incroyables.
C'est à ce moment-là que j'ai fait, c'est quoi le rêve au final? Mm-hmm. C'est-tu jouer? C'est-tu ça le rêve? Puis je me suis rendu compte que mon rêve, c'est de vivre du golf. Et de là est venu, je pourrais cader.
Ouais. Ce serait mon rêve, ça.
Tu sais, moi, le cadet, je commençais à triper. Je connaissais, j'analysais tellement la game, tu sais. J'aimais tellement l'analyser. Je me dis, je vais aller cadet. J'ai joué, j'ai compétitionné. Mm-hmm. J'ai joué à ce moment-là, j'avais pas joué encore sur les plus hautes plateformes possibles, mais on compétitionnait quand même à un certain niveau. Ma cadet.
Mm-hmm.
Puis je l'avais faite là dans un Canadien où j'avais pas fait la cote. J'avais cadé José Doyon, si je me trompe pas.
Un
Canadien amateur.
Belleuil?
Non, Lethbridge, en Alberta.
OK.
À Belleuil, quand j'ai pas fait la cote, je suis rentrée chez moi.
Ah, t'es rentrée chez vous, c'est vrai, parce qu'on était
au Québec. On était au Québec.
C'est vrai. T'aurais pu dire me cader, moi j'avais fait la cote. Clin d'œil. Mais c'était mon père qui me cadait.
Merci.
C'était super bon.
Mais non, c'est ça, tu sais. Puis fait que le cadé est apparu. Puis je me suis rendu compte que maintenant, les caddies sur le tour, c'est des chums, c'est des meilleurs amis, c'est des...
C'est une relation
plus qu'une chose. C'est peut-être plus autant un métier que comme ça l'a déjà été.
peut-être dans le début des années 2000 ou la fin des années 90, là, on pense à Bones ou à tous les ces grands caddies qui ont passé à travers plusieurs joueurs. T'sais.
C'est sûr que ça a évolué. Peut-être qu'avant, c'était des coachs aussi en même temps. Là, maintenant,
oui, c'est ça, ça évolue.
Un swing coach, un coach de putting, un coach de
exact.
Un coach de tout.
Exact. Puis c'est à ce moment-là que j'ai fait « Ah, mais je vais voir. » Puis j'ai découvert que j'aimais la technique. J'aimais énormément. J'étais une éponge quand... encore là, on salue Mathieu Paradis qui était mon entraîneur avec Kevin Bergeron et Lee Anctil à ce moment-là, à travers mes années universitaires. Mathieu s'est mis à partager énormément ses connaissances avec moi. Je les retenais, j'apprenais, j'essayais de les appliquer sur les autres aussi. Je suis devenue, c'est ça, en mode écoute, en mode apprentissage. Puis c'est là que j'ai fait, je pourrais enseigner. Le premier réflexe encore là, c'est de coacher.
Ouais.
De coacher, que ce soit universitaire, de coacher NCAA, de... Mm-hmm. Bon, mon rêve plus jeune, c'était d'aller jouer pour les Gators de la Floride, mais c'était transmis à je vais coacher les Gators de la Floride, tu sais.
Fait que là, quand tu as dit tu vas enseigner le golf, qu'est-ce que tu as fait parce que tu as fini l'Uni à l'hiver? Est-ce que, là, durant l'hiver, est-ce que t'as tout de suite envoyé des CV partout?
Ben, en fait, la recherche d'emploi, mettons, pour moi, ça s'est fait très naturellement, très facilement. Mais c'est pas une difficulté du tout, le plaisir que j'avais, c'est que je pouvais pas tourner pro tout de suite parce qu'il me restait un Canadien universitaire à jouer, okay. Le dernier qu'on a joué à Morningstar en Colombie-Britannique.
Ouais.
Mais j'avais aussi été choisie pour faire partie de l'équipe canadienne au championnat du monde universitaire en France.
Mais oui, c'était en
juin.
Okay.
Ouais. Juin 2016. Ce qui faisait que la période pour tourner pro, c'est terminé.
Il était passé. Moi, c'était 2 juin. Ben, l'année, 2 ans après, je pense.
Fait que c'est toi, ça.
Que ça devait être ça.
Fait que je pouvais plus tourner pro à ce moment-là. Donc, j'ai fini ma saison, mais par plaisir. Par plaisir, je savais où je m'en allais. Puis c'est à ce moment-là que Francis Bergeron, là, le professionnel en titre au Country Club de Montréal, est venu me voir. Puis m'a proposé de me joindre à son équipe. Quand j'allais obtenir mes cartes, de me joindre à son équipe de professionnels et de prendre les responsabilités au niveau des juniors.
Okay. L'année suivante.
Oui, donc j'ai eu mes cartes là, février 2017. Là. Dès que je pouvais, j'ai envoyé mes demandes, puis tout était assez clair pour moi, mais j'avais déjà un endroit, puis en plus d'être déjà un endroit, c'est un endroit qui était familier parce que ça faisait déjà 5 ans que j'étais membre là-bas.
OK. Les gens te connaissaient.
Ben, les gens me connaissaient un petit peu, connaissaient la joueuse. C'est moi, j'étais le genre de personne en tant que joueuse où je rentrais au club de golf avec mes écouteurs, je m'installais dans le fond du champ de pratique, puis je frappais mes balles, puis je faisais mes choses. Tu sais. Fait qu'il y a eu une adaptation, il y a eu une évolution à faire avec ça, mais j'ai mis les pieds au country club. Sylvain Laplante, au Collège Charlemagne, m'a proposé aussi un poste pour encadrer les jeunes dans son parascolaire golf. Puis c'est de là que tout a commencé.
C'est le fun, parce que c'est fou, parce que le monde du golf est quand même un petit monde. Fait que dès qu'on sort, puis vu qu'on avait joué un peu du golf junior assez haut niveau, ben on se trouve des jobs quand même assez rapidement. En tout cas, ça, c'est vraiment chouette. Est-ce que tu aurais un mentor ou une personne qui t'a influencé à aller là-dedans?
À aller dans à enseigner.
Il peut pas en avoir.
Ben, tu sais, comment une fille de Montréal qui joue la série Jocelyne Bourassa ne peut pas être influencée ou motivée par le parcours de Debbie Savoie-Morel, tu sais?
Ah,
oui. Ouais, il y a Debbie qui était là, qui était toujours ouverte à nous parler, qui a toujours, avec grand style et gentillesse, qui était là pour nous encourager. C'est sûr que quand j'ai commencé à penser à l'enseignement, Debbie était à ce moment-là à la tête du club de golf Le Mirage. Est-ce que c'est un mentor? Non, une inspiration certainement.
Okay.
Un mentor, je pense qu'il y a plus en tant que parcours, une personne à qui je fais extrêmement confiance, puis
avec qui on a toujours des bonnes discussions, puis qui me donnent leur juste aussi, mais c'est Francis Bergeron, professionnel en titre au Country Club. C'est avec lui que je partage mes idées. Des fois, mes idées de grandeur, mais
ça en prend des idées de grandeur.
Ben, c'est ça.
Ou en tout cas, ils sont nommés grandes, mais au pire, on se fera pas lire un peu.
Oui, exactement, exactement.
Raconte-moi une journée typique. Ça commence à 6 heures.
Ça dépend quel mois de l'année.
Ouais. Vas-y, rapido, je te dirais, resto, mettons que clac, clac, clac.
L'année passée, une journée typique pendant une journée d'été, là, donc quand junior et tout, pouvait commencer autour de 7 heures, 8 heures, où souvent j'essayais de placer une ou deux leçons avant mes camps juniors.
Okay.
Les camps juniors, souvent, étaient de 9 heures à midi, par les installations qu'on a. Nous, on fait des demi-journées. Là. Okay. Je prends le temps après, j'ai une heure après pour aller dîner, et on repart avec un camp quand il y a un camp l'après-midi. Souvent, je termine ma journée de camp vers 4h, 4h30, j'ai une leçon. Puis soit j'arrive sur une série de 2 ou 3 leçons pour terminer ma journée, soit j'arrive sur une leçon sur le parcours, donc je peux partir avec, avec un membre, puis aller jouer. Ça arrive souvent, là, au club de golf, je peux arriver à 6h30, 7h, 7h30, puis quand je travaille en boutique, je peux partir de là à 10h le soir. Tu sais.
Est-ce que tu fais de la boutique aussi? Moi, je ne fais pas de boutique, là, mais j'en ai déjà fait un petit peu. Ça serait quoi ton plan court terme, moyen, long terme? Mais juste, tu peux juste en nommer un des trois ou les trois, mais vas-y.
Oui, bien, quand j'ai commencé mon plan, mettons, c'était vraiment la classe A. Tant que professionnel de golf, là, on commence comme professionnel apprenti là, avec la PGA du Canada, puis on a une genre de formation qui ressemble beaucoup à un certificat universitaire. Là.
Ben, même un bac.
Là, presque un bac.
Parce que ça prend 5 ans.
Oui, exactement. C'est presque un bac de formation. Puis je m'étais dit, j'aimerais ça rester dans mes ancrages, dans mon chez-moi, qui est le Country Club de Montréal, pour faire cette classe A-là.
Mm-hmm.
Et par la suite, ben, d'y aller avec les opportunités, de voir je suis rendue où dans la vie, de voir quelle opportunité s'ouvre à moi. J'ai clairement un désir de l'extérieur. Le connais, tu le sais. Québec, Canada, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, j'ai une passion énorme pour Disney. Et ils ont un club de golf, ils ont des installations de golf, et souvent, il y a des postes de pros qui rouvent.
Mais ça serait une belle idée pour l'hiver, parce que l'hiver, c'est sûr que c'est plus, c'est plus tranquille pour nous, le golf, au Québec. Oui, exactement.
Je me mets des objectifs. Par exemple, j'aimerais ça... Je veux toujours continuer de grandir. À chaque année, je veux être une meilleure pro. À chaque année, je veux être une meilleure personne dans l'industrie du golf. Donc, j'y vais une année à la fois, en me donnant des objectifs de grandir d'année en année.
Good, c'est un bon plan. Petite question rapide pour finir. Nomme une seule qualité pour un golfeur qu'il devrait avoir. Une seule.
Une seule qualité?
Oui.
Dans le sens une section du jeu?
Non.
Ou une seule qualité?
Une qualité de personne. Comme une qualité...
De personnalité, là.
Personnalité.
Je pense le calme.
Oui. J'aurais dit patience, moi.
La patience, oui. Patience, le calme, quelqu'un de posé. Mm-hmm. Je pense que c'est la meilleure chose pour le golf. Là, les gens disent, si tu veux connaître la personnalité de quelqu'un, amène-le sur un terrain de golf. Là, je pense qu'il y a quelqu'un qui est calme, puis qui sait pas se prendre au sérieux, puis d'avoir du plaisir sur un terrain de golf. Là.
Faire confiance au processus, dans le fond.
Ah, ben oui. Oh, oui.
Terrain préféré ou terrain que tu aimerais... En fait, c'est pas vrai. Terrain que tu aimerais jouer. Avant de mourir.
Augusta National. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Moi, j'en ai un autre, mais tu pourras me poser la question dans un prochain podcast.
Non, je pense Augusta National. Okay.
Good. Puis, qui coacherais-tu pour une journée? Mais ça peut être pour n'importe quelle raison, puis je veux savoir la raison.
OK. La personne... C'est difficile. En tant qu'ambassadrice Pink, je vais y aller avec la famille... Victor Hovland.
Oh.
Ouais. Victor Hovland, ce Norvégien sorti tout droit de Oklahoma State University. qui est en train de faire sa place sur le circuit. Tellement positif, tellement souriant. Un élan de golf qui est extrêmement efficace, qui a très peu de failles sous pression. J'aimerais ça juste partager avec son équipe. T'sais. J'aimerais ça marcher 9 trous avec eux. J'ai même pas besoin de jouer.
Besoin
de jouer.
Si tu joues en même temps, là.
J'aimerais ça partir avec son équipe, mais son coach, son swing coach, son coach, son caddie lui-même. Partir jouer au golf, pitcher des balles ici et là, voir comment il voit la game. Je pense que c'est là que j'irais, dans la famille Ping.
Dans la famille Ping, c'est une bonne réponse. Puis c'est vrai que c'est fou juste de suivre des joueurs du tour. Quand on entend parler le McIlroy qui parle avec Tiger, qui parle avec Dustin Johnson, mm-hmm. c'est tellement impressionnant comment il voit le coup puis comment il te l'explique. Puis tu fais « tu vois ça comme ça ».
Au mois de décembre, là, juste de voir Charlie Wood avec Gary Player sur le putting green.
Wow.
C'est comme 8 générations de différence, ouais. Presque, tu sais. Puis de voir Gary Player lui parler du putting au jeune Charlie Wood qui déjà a accès aux meilleures ressources au monde. Ben, je suis désolée, mais entre passer 3 heures sur Trackman puis passer 20 minutes avec Gary Player, je vais prendre le 20 minutes avec Gary Player, moi.
Oui, incroyable, mais si on passe quand même Tiger Woods en même temps, tu sais. Ouais. Mais c'est fou, là, c'est pas pareil, Tiger Woods le père puis pas le père, là, mais... mais merci Alex d'avoir passé ce temps-là avec moi.
Merci à toi.
J'ai appris un peu plus de trucs, là. Je savais pas que t'avais été à cette île. T'sais, on était à la même place, ouais. Au même moment, on se connaissait pas.
Non.
Puis en tout cas, c'est bien intéressant d'en apprendre toujours plus. Donc merci d'avoir été à l'écoute.
Mais merci à toi de m'avoir posé toutes ces belles questions.
Okay, on se voit la semaine prochaine.
Bye bye.
Bye bye.